This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Il y a des joueurs comme ça où tout est aligné. Les chakras, les astres.
Bonjour et bienvenue pour ce 57e épisode de ton podcast Initiatique Spiritualista. Je t'enregistre cette introduction depuis Marrakech. Là, les petits oiseaux que tu entends, je les ai pas rajoutés en post-production. Ils sont là, ils sont bien réels. Je suis sous le soleil du Maroc. Mon invité dans cet épisode, c'est Carlson. Tu verras, je l'ai découvert il y a quelques mois sur TikTok. Il est exceptionnel. Il est rappeur, il est auteur, il est chaman. Il crée des bijoux. C'est un poète. Il fait des vidéos incroyables sur TikTok et sur Instagram pour éveiller les consciences. Dans cet épisode, on parle d'intuition, de création, de spiritualité, de lien au sacré. Et on a aussi développé un arc que j'ai jamais exploité dans Spiritualista, le complotisme. Il faut savoir que moi, j'ai débuté mon éveil de conscience par ce rabbit hole, par ce trou du terrier du lapin, un peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. C'est quand j'ai plongé dans les contre-vérités, je me suis connectée à d'autres perceptions qui ont éveillé ma conscience. Dans cet épisode, tu verras dans le désordre, on parle de Kanye West, de MK Ultra, d'espions exfiltrés, de théories du complot, de Zombieland, d'Aleister Crowley, Charles Manson, la CIA. Waouh! Bref, comme d'habitude, j'espère que tu vas te régaler en écoutant cet épisode autant que je me suis régalée en interviewant Carlson. Allez, stop le blabla, c'est parti! Spiritualista! Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spiritualista. Aujourd'hui, j'ai l'immense privilège d'être accompagnée de Carlson. Carlson, c'est une personnalité que j'ai rencontrée sur TikTok il y a quelques mois maintenant. Je l'adore. C'est un chaman rappeur. Il est poète, il écrit, il fait plein de vidéos pour éveiller les consciences sur plein de plateformes différentes. Bonjour Carlson.
Salut Amel, merci de m'avoir invité dans ton podcast. Et comme je le répète souvent à mes abonnés, tu es toi-même une de mes créatrices de contenu préféré sur TikTok.
J'adore, ouais. Oh là là.
Très inspirante.
Je vais me mettre à faire des drops, tu sais, comme les radios, quand elles, des DJ, extraits. Des trucs. Bonjour, je suis Carlson et j'ai validé Spiritualista.
Retrouvez-moi alors.
Grave. Alors, écoute, je suis ravie de pouvoir parler avec toi de spiritualité, d'éveil de conscience. Tu es aussi un artiste, on va parler de création, d'intuition. Cette saison 3 de Spiritualista est tournée autour des créateurs, des créatifs, des artistes. Parce que je pars du principe qu'au travers de la création, c'est Dieu qui parle au travers de nous, qu'on est des outils du divin. Déjà, quel lien tu entretiens, toi, Carlson, avec la création ?
Moi, la création, on va dire qu'elle est, elle a commencé très tôt dans ma vie parce que j'avais beaucoup de sentiments et émotions incomprises, refoulées que j'avais à exprimer. Il faut savoir que moi, très tôt, j'ai vécu quelque chose qui a changé ma vie. J'ai eu mon père qui est décédé quand j'avais 6 ans. Et c'est un petit peu quelque chose qui a fait un shift dans ma personnalité et dans la personne que j'étais parce que je n'arrivais pas à l'accepter, je ne comprenais pas qu'est-ce que ça veut dire, la mort, ça veut dire quoi, papa, je ne vais plus le revoir, mais qu'est-ce qui se passe. C'était très, très, très difficile à vivre. Du coup, même, ça laisse beaucoup de traumas parce que, par exemple, quand tu es à l'école primaire, chaque année, à la fête des pères, et tous les enfants font des cadeaux pour leur papa, toi, tu es là, tu es en cours, tu ne sais pas quoi faire, tu n'as pas de papa, tu vois. Et je sais que ça m'a beaucoup poussé vers la création, pas consciemment, mais quand je réécoute mes premiers morceaux, il y a un morceau qui s'appelle Papa si tu m'entends. Il y a énormément de morceaux qui sont en honneur à mon père, où je parle à mon père, où je parle de lui, ou truc. Et donc je pense que ça a vraiment été le déblocage parce que j'arrivais pas à en parler aux gens. Quand je devenais colérique, quand quelqu'un me posait des questions ou rigolait et tout. Et du coup, je pense que ça m'a permis, ça a été une sorte de thérapie. Ça m'a permis d'évacuer certains sentiments refoulés.
Et excuse-moi, mais je trouve ça super beau et poétique d'avoir compris inconsciemment que la création, la poésie, le texte, le fait de clamer les choses, c'était aussi un lien vers le subtil, tu vois, et peut-être le lien vers ton papa, en fait, de l'autre côté.
Ouais, bah c'est ça. C'était pas conscient. Comme je
Ouais.
l'ai dit, c'est avec du recul parce que parfois il m'arrive de me dire, moi en tant que créatif, j'aime parfois, parce que ça fait déjà très longtemps que je fais de la musique, j'ai sorti des tas d'albums, de mixtapes, et parfois quand je ne sais plus dans quelle direction artistique aller, quoi faire, je me dis toujours, mais attends, c'est quoi ta base? Et donc je m'en vais réécouter mes premiers morceaux pour me rappeler à la base comment je me ressentais quand je créais. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu te développes dans ta carrière, tu peux vite arriver au moment où, au lieu de créer, tu penses au marketing, à la stratégie, à la communication, à comment tu vas faire ta sponsor YouTube, à ton clip, à ta stratégie
À ton
sur les réseaux sociaux, à ton
stylisme.
stylisme, à ton TikTok. Alors qu'à la base, quand tu commences à créer, tu ne pensais pas à tout ça.
Exact.
Et donc, très souvent, pour me remémorer que, oublie tout ça, crée juste, ça tu verras après, j'ai besoin de réécouter mes premiers morceaux qui ont plein, plein, plein d'imperfections, qui a plein de choses qui ne vont pas, mais c'était spontané. Et je sais que mes meilleures œuvres, par exemple, le dernier EP Moonlight, je l'ai écrit en une nuit, je l'ai enregistré le lendemain, quatre morceaux, et j'ai mixé
Il est génial
dans les jours
d'ailleurs.
qui suivent. Et c'est mon chef-d'œuvre, c'est le truc que je préfère de tout ce que j'ai
Il
fait.
est super
Et
beau.
ça s'est fait en 3-4 jours au total, tu
Et
vois.
on sent la vibe. En fait, voilà, cet épisode du podcast avec mon invité Carlson, vous allez voir, il va être clairsemé d'extraits justement de cet album EP, de ces quatre titres-là.
Rien n'est impossible car j'ai confiance en l'univers. Parfois je perds le nord car ce monde tourne à l'envers. Il faut le voir pour le croire, mais faut que j'y croie pour le voir. My man, j'ai quitté le trou noir, je suis dans une tour d'ivoire. God damn, un glow phénoménal, c'est pas ma forme finale. My man, la fumée que j'inhale est totalement végane.
Ça me fait penser ce que tu me dis par rapport à retrouver le nerf, l'ADN même de ta créativité, de ce que tu as envie de partager avec le monde, à deux choses. Là, l'épisode qu'on va sortir, toi et moi, ça sera l'épisode. Attends, je tourne mes petites pages. C'est l'épisode 57.
D'accord.
Tu vois, c'est la troisième saison du podcast. À chaque fois qu'il y a le break d'été et que je dois relancer une nouvelle saison, j'ai une espèce de peur panique du je sais pas faire, je sais plus faire les podcasts. Et je dois réécouter d'anciens épisodes, par exemple mon épisode sur l'ayahuasca, tu vois, qui est un peu sous forme de documentaire audio, pour me redire ok, non, c'est bon, t'inquiète pas, tu sais faire ça, tu vois, pour s'auto-rassurer. Et faire en fait. Parce qu'on a toujours une partie de nous qui s'observe et mine de rien, notre programmation nous fait croire qu'on n'est jamais assez ou jamais assez bien. Comment toi, t'arrives à créer, à partager, à diffuser, à avoir assez confiance en toi pour te dire, ok, là c'est bien. Quelque part, je peux le partager et je suis ok avec ma création.
C'est une très bonne question. C'est quelque chose qui est assez récent. On va dire que en général, en fait, maintenant, j'essaie de réduire le temps entre la création et la diffusion. Parce qu'en général, parfois, j'allais sortir un projet ou un clip, bah, j'ai enregistré le morceau, il faut un mois pour préparer le clip, ensuite je filme le clip, ensuite j'ai le résultat. Et entre le moment où je crée le morceau et la diffusion, le morceau, je l'aime plus. Je le trouve plus assez bien. Parce que plus je les réécoute, plus j'y trouve des défauts. Et maintenant, en fait, je pense que j'ai même fait une vidéo qui s'appelle La Perfection, où le jour où j'ai compris que la perfection, c'est l'ennemi du bien. J'ai arrêté de chercher la perfection. En plus, moi, je suis aussi ingénieur du son, je suis aussi compositeur. Donc, ça veut dire que quand un morceau, normalement, il est bon, il est bien, moi, je me dis non, il faut rajouter un peu de reverb, faut compresser comme ça, la voix, elle n'a pas assez de grain, rajoute des effets, enlève des effets. Quand je fais, mais ça me fait rigoler, parfois, je vois version 22 d'un morceau. Mais je te fais écouter moi, quand j'écoute la version 22 et la version 5, je vois même plus c'était quoi la différence, mais il y en a eu 22. Et je réexporte et je réécoute. Et mais ah non, ce que j'ai fait, c'est pas bien, retour en arrière. Et maintenant, ouais, maintenant, il n'y a plus ça. Maintenant, mes derniers morceaux, je regarde, il y a 3 versions. Et c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup moins... C'est spontané, j'écoute, c'est bien. Ça peut être mieux, oui, mais c'est bien. Ça peut toujours être mieux.
Ouais.
J'essaie juste de me dire, eh, là, c'est bien. Est-ce que quelqu'un qui va écouter, il va capter la vibe? Oui. Est-ce qu'il va comprendre les paroles? Oui. Est-ce que les mélodies sont catchy? Oui. C'est tout.
Respecter l'énergie, en fait.
Voilà, voilà. Et surtout, faire en sorte que quand c'est terminé, ça sort.
Ouais.
Parce que si je laisse une attente, je regarde en arrière.
Le doute commence à...
C'est ça, et surtout quand tu es dans des périodes productives. Moi, chaque fois que je fais des nouveaux morceaux, je les trouve mieux que les précédents. Donc, ce que j'avais préparé à sortir, qui a mis 6 mois à sortir, bah, entre le temps où je les avais fait et c'est sorti, bah, j'ai déjà fait 30 nouveaux morceaux que je trouve mieux. Donc, j'ai plus envie de sortir les anciens. Et c'est quelque chose qui te fait stagner, etc. Donc, maintenant, je crée moins, mais je crée précis. Et là, par exemple, demain, je vais en studio, je vais faire 2 morceaux. Je pense que je vais peut-être en faire 2 autres, peut-être la semaine prochaine. Les 4 morceaux seront prêts. Je vais pas trop réfléchir, je vais les sortir. Je vais arrêter de me dire, mais attends, il faut la stratégie parfaite, le marketing parfait. Parce que j'ai vu que l'énergie, la spontanéité, maintenant que j'ai trouvé la forme de mon art, la forme qui reflète vraiment ce que je ressens, j'ai travaillé avec un nouveau compositeur, on a une harmonie parfaite. Il n'y a plus besoin de faire des clips, il n'y a plus besoin de mettre 1000 euros dans un gros clip. J'ai juste à mettre la bonne énergie sur TikTok pour qu'on comprenne la vibe, pour qu'on ressent ça. Et au final, moi, il y a un truc que je trouve très intéressant, que je me suis rendu compte récemment. En fait, l'univers, c'est un algorithme.
Oui.
Et donc, l'algorithme TikTok, pour moi, il correspond à l'algorithme de l'univers.
Totalement.
Et c'est l'énergie que je donne dans ma vidéo qui va faire que les gens vont ressentir cette vidéo, ils vont faire des challenges. Et je l'ai compris là avec le dernier EP Moonlight.
Ouais. Donc, c'est toi qui projettes, en fait,
ouais,
et qui reçoit la justesse de ton algorithme ensuite.
Là, je veux dire, par exemple, même quand j'ai sorti cette EP, à aucun moment, j'ai demandé à personne de partager, de faire écouter, de télécharger. J'ai juste dit, voilà ce que je fais, voilà ce que vous allez entendre, je vous laisse découvrir. Et cette énergie que j'ai mise a fait que les gens ont volontairement partagé le truc de fou. Mais si m'étais mis dans l'énergie de demandeur, fais tourner les poteaux,
c'est l'énergie du manque, en fait.
Exactement, l'énergie du manque. Comme parfois j'étais avant.
On l'est tous de temps en temps, on a des rechutes. Hein. On vient tous de là. On vient tous des mendiants de l'amour, tu vois. Genre, mais toi, t'es arrivé en mode dans ta divine énergie, j'ai créé ça, j'ai fait ça, écoutez.
Ouais.
Boum,
ouais.
Tu vois, ça marche en fait.
C'est
tout
ça.
Est énergétique.
Bah, en fait, le vrai shift que j'ai eu aussi, tu sais, aujourd'hui, même pas une heure avant d'arriver ici, j'ai posté une vidéo sur TikTok.
Ouais.
Parce que j'étais avec un de mes amis qui s'appelle Chris d'Iconic. Iconic, c'est un gros média très intéressant de
hip-hop. Mais oui,
Chris,
bien sûr, vois, je vois.
Il décode les stratégies marketing de
la musique. Ouais, elles sont super ces vidéos YouTube.
Je l'adore.
Il est génial, je vois totalement qui c'est.
Voilà, ouais. Et celui-là, on s'est rencontrés il y a 2-3 ans. Rencontre oufissime, les énergies étaient parfaites et tout. Et il m'a dit un jour, tu sais Carlson, chaque fois que je te vois... tu me parles de choses, tu me retournes la tête, c'est trop inspirant, etc. Mais j'entends pas ça dans ta musique. J'entends pas ça dans ta musique, je t'entends pas parler de ça sur les réseaux. Moi, la façon dont j'adore passer du temps avec toi parce que t'es intéressant, je le ressens pas quand j'écoute ta musique. Et ça, quand un exemple de parole impeccable, de parole créatrice, il m'a dit, faut que tu assumes ta personnalité. Il m'a dit, tu sais quoi, sois ta propre caricature. Donc la façon dont tu es avec moi, soit 200% ça, pour que les gens comprennent. Il m'a dit, soit ta propre caricature. Et justement, ça, j'ai jamais oublié ça, parce que lui, tu vois, mec, t'as changé ma vie. Il me dit, comment ça, t'as changé ma vie? Je dis, tu sais pas, la parole impeccable,
ce petit truc-là, ça fait un baobab.
C'est grâce à toi que je me suis lancé sur TikTok. Il y a plein de sujets dont je parle, je me disais, on va me trouver bizarre, on va me trouver chelou. Même à l'époque, je bossais avec un manager ou parfois j'avais des conseillers dans les labels. Je leur voulais faire un truc un peu ésotérique qui me disait « Ah, mais tu sais, dans le rap français, c'est des musulmans, hein, c'est des chrétiens et tout, ils vont te trouver bizarre, enlève ça, garde ça. » Tu vois, j'avais ce genre de trucs qui, au final, je ne pouvais pas m'exprimer totalement parce qu'on avait peur de comment on allait être perçu.
Ouais.
Et pareil, donc c'est bien que tu me parles de ça parce que je lui ai fait une dédicace. Parce que quand j'étais avec lui la dernière fois, je l'ai filmé, je lui ai dit tout ce que je viens de te dire, je l'ai posté pour lui donner ses fleurs.
Ça, c'est les ouvreurs de chemin, ça,
exactement.
Tu sais. Hein. Exactement. Ça, c'est très très puissant quand la parole est passée.
Lui, à chaque fois, il me dit, on était juste en train de boire un verre, je t'ai dit ça naturellement. Il dit, mais t'as dit ça comme ça, mais mec, t'as planté une graine et t'as changé ma vie.
C'est beau.
Et en dehors de ça, souvent, en tout cas, moi, en tant qu'artiste, surtout, qui est, donc je fais du rap, maintenant, c'est très ouvert. Là, demain, il y a un morceau, je sais pas, c'est un peu de la deep house que je vais faire. En fait, maintenant, je m'en fous. Je ne mets plus de barrières. Mais quand, par exemple, ça fait quelque chose que je viens de l'entendre, et il y a le rap et y a la culture hip-hop.
Oui.
Et quand tu as baigné dans la culture hip-hop, il y a énormément de codes.
C'est un égrégore qui est très, très puissant.
Il y a énormément de codes et tu te dis, mais attends, mais si je fais un son comme ça, je ne suis pas un vrai. Tu vois, j'écoute les anciens, mais je me dis, mais attends, telle personne n'aurait pas fait un son comme ça. Si Lil Wayne, il m'entend, là, qu'est-ce qu'il va dire, tu vois. Et donc, tu te fermes, etc. Ouais. Et maintenant, j'arrive au moment où je m'en fous.
Oui.
Tant que je me ressens dans le morceau, peu importe la forme, tant que j'y vais et j'ai plus cette retenue.
Et il faut accepter aussi l'évolution créative, l'évolution musicale. En fait, tu grandis au travers de ton art. Donc, si parfois ça va être teinté de bossa nova, de musique latine ou de musique, je sais que t'es ivoirien, tu vois. C'est la vie, c'est ça, ça grandit, c'est... Faut laisser ça vivre. Et je t'écoutais parler quand tu disais, quand Chris t'a dit « je ressens pas ça dans ta musique
ouais. »,
souvent dans mon algorithme TikTok, j'ai KRS-One qui apparaît.
Okay.
Et il est extraordinaire dans sa façon de parler de l'éveil de conscience, d'ésotérisme et tout ça. Et c'est vrai que dans la francophonie, on n'a pas cette approche-là, en fait.
Mais justement, il m'a dit « là, quand tu vas faire ça, tu seras unique ». Il n'y a pas ce créneau-là, etc. Et puis, il m'a dit, surtout, tu seras unique. Mais il y a des gens qui deviennent uniques. C'est la maison de disques qui dit, il faut que tu te positionnes comme ça, il faut que tu sois comme ça.
C'est
une personnalité créée. Il me dit, toi, c'est ta personnalité. C'est juste que ce que tu fais là, c'est tu ne donnes que 10% de toi-même parce que tu as peur, parce qu'en général, on te prend pour un mec bizarre.
Ouais.
Mais il m'a dit, mais tu sais quoi, les mecs bizarres, les gens les aiment aussi. Donc, soit ce mec, si tu es ce mec bizarre, soit ce mec bizarre jusqu'au bout. Et tu te rendras compte qu'au final... T'es même pas bizarre, parce qu'il y a plein de gens qui se considèrent comme des mecs bizarres, qui sont ces personnes cheloues, perchées, et qui ont juste, au final, se ferment, et donc du coup, ils rencontrent pas les autres. L'univers est un algorithme.
Oui.
Les TikTok, il m'a vu se présenter aux gens qui attendaient quelqu'un comme moi, qui était là depuis un moment.
Ce que je pense dans le milieu artistique, je pense qu'il fait la différence, c'est l'authenticité, c'est la vérité. Peu importe qui t'es, ce que tu fais, ce que tu penses, ce que tu racontes, ce que tu as envie de partager, si c'est toi et que c'est vrai, ça va marcher. Je m'en suis rendu compte quand je faisais du stand-up. Mm-hmm. Tu vois, quand tu arrives, tu te présentes, tu sais, c'est raw, c'est brut. On en a parlé la dernière fois, on a fait un live ensemble. C'est si tu n'es pas dans ta vérité, tu vois, un Roman Frissiné cartonne parce qu'il est... peut être qualifié de bizarre, de weird, tu vois, il a une pensée en arborescence, et c'est un geek de l'humour dans sa pensée, tu vois, mais il est authentique, il est lui, en fait. Et c'est ça qui plaît aux gens, c'est la vérité qui plaît aux gens. Mmh. Donc n'hésitez pas à montrer vos couleurs, tu vois.
C'est ça, et au final, pour moi, mes deux plus grands artistes de tous les temps, c'est des personnes avec des personnalités.
Ouais.
C'est genre Lil Wayne et Kanye West,
oui.
Lil Wayne, c'est quelqu'un, quand il est arrivé, bon, on va pas trop parler de lui parce que sinon moi je vais m'étaler pendant des heures, mais juste en termes de personnalité, je me souviens la première fois que j'ai vu sa tête, c'était dans le clip Soldier de Destiny Child. See, cash money is an army. I'm walking with purple hearts on me. You're talking to the sergeant. Body marked up like the subway. Le mec qui arrive, il est tout petit. Il fait des mimiques bizarres. Il a des tatouages sur le visage. Il a des dents. Sa voix est étrange. Et les gens le trouvaient bizarre.
Extraterrestre.
Mais il a imposé son style. Aujourd'hui, je regarde 90% de si. Aussi, je te demande. Si je demande à une intelligence artificielle, dessine-moi un rappeur, elle va dessiner Lil Wayne. Elle va dessiner un mec avec des dreads, des tatouages partout sur le corps, des dents en diamant. Mais c'est parce que quand il est arrivé, il était le weirdo. Mm. C'est qui ce gars bizarre? Il vient du sud, il n'articule pas bien, on ne comprend pas. Il a tout changé de style.
Ben oui.
Et l'autre, Kanye West, c'est une personnalité que tu aimes ou que tu détestes et que tu aimes et ensuite tu vas détester et déjà c'est le réel et tout, mais c'est une chose
et tu l'aimes encore plus que tu l'aimais avant parce que
voilà, mais une chose est sûre, c'est que c'est leur fait qu'ils aient une personnalité, qu'ils fassent aucune concession. C'est comme ça que je suis et c'est comme ça que je me présente au monde. Vous m'aimez ou vous m'aimez pas, mais
ouais, c'est ça, se libérer du jugement pour être totalement libre. C'est finalement, c'est ça la vraie liberté, c'est être soi-même sans peur. Et je pense que c'est vraiment la grosse tagline de l'artiste en réalité.
C'est ça.
J'aimerais qu'on parle de l'intuition. Mm-hmm. J'aimerais savoir, toi, Carlson, quel lien tu as avec l'intuition? Est-ce que parfois tu la personnifies? Avant de te mettre au travail, est-ce que parfois tu mets en place des rituels pour t'aider, tu vois, des actes psychomagiques qui vont appeler l'intuition? Mm-hmm. Est-ce qu'elle vient te visiter et tu es au service de cette intuition dans ta création? Comment tu la perçois?
Donc, tu veux savoir pour l'intuition dans la vie en général ou l'intuition dans mon processus créatif?
Ce qui t'appelle, ce que tu as envie de partager avec nous.
Dans mon processus créatif, donc tout d'abord, j'écris pas sans avoir une musique. Donc, j'écris toujours sur des instruments. Les seuls moments où j'écris sans musique, c'est que j'ai eu un jeu de mots qui est venu dans ma tête et je sais que moi, j'ai une très mauvaise mémoire. Donc, le jeu de mots, je me dis, attends, écris-le vite ou je vais entendre quelqu'un dire un truc, boum, ça va me faire penser à une punchline. Intéressant, il faut que je la note, j'ai 567 notes dans mon téléphone, c'est que des jeux de mots, des punchlines, des trucs que je pense. Mais j'écris pas de chansons sans musique.
Ok.
Vraiment, il peut m'arriver, je vais regarder un podcast ou regarder un truc YouTube et je me dis, ah, ça, ce serait une bonne thématique, je vais prendre note de la thématique. Mais ce qui va vraiment appeler la chanson, c'est les 10 premières secondes quand j'écoute, parce que j'écoute des instrus tout le temps, j'ai plein de gens qui m'en envoient, moi j'en composais, mais j'ai arrêté d'en composer parce que je voulais plus diviser mon énergie entre compositeur et écrire des chansons. Je me suis dit, je prends des compositeurs et je mets tout sur l'écriture des chansons. Mais si dans les 10-15 premières secondes où j'entends l'instru, j'ai pas ce ressenti d'une mélodie qui me vient en tête directement, je passe.
Ah, d'accord, tu zappes.
Voilà, je zappe. Même si parfois la mélodie elle est pas claire, nan, 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 en fait l'instru elle me parle, elle m'appelle directement ou non.
Et est-ce que parfois tu appelles l'esprit de l'intuition?
Avant, mais je le fais plus. En fait avant, bon, on peut dire l'esprit de l'intuition, avant j'allais appeler, j'allais forcer l'inspiration. Parce que parfois, je me fais des challenges moi-même où je me dis, je dois écrire un son par jour pendant une semaine. C'est pour moi, c'est personnel parce que je me dis, dans l'art, c'est comme du sport. Plus tu joues du basket, plus tu vas shooter 3 points, plus tu vas être bon en 3 points.
C'est la fameuse règle des 10 000 heures, tu connais ça ?
Voilà, ouais. voilà, par exemple. Sauf que, au final, je pense qu'il y a une grande différence avec l'art et le sport. C'est que le sport est quelque chose de quantitatif.
Ouais.
Si tu veux savoir, si on te demande qui est le meilleur, quels sont les trois meilleurs basketteurs de tous les temps, tu vas dire LeBron James, Kobe Bryant, Michael Jordan. Pourquoi? Parce que c'est lui qui a mis le plus de points,
ouais,
tout simplement. Qui est le meilleur footballeur? Cristiano Ronaldo. Pourquoi? Bah, ouais. C'est le meilleur.
Il y a de la data, quoi.
Il y a de la data. Dans l'art, il n'y a pas. Tu peux dire qui est l'artiste qui a le plus de succès, mais ça ne veut pas dire, tu ne peux pas dire qui est le meilleur artiste.
Ouais.
Parce qu'il y a des goûts, il y a différentes façons de. Donc au final, quand j'étais dans ma créativité que je me forçais à écrire des sons tous les jours, ça me permettait d'avoir des automatismes, de savoir dès que j'entends un mot, boum, tous les mots qui riment avec ça sont décodés, dès que je commence tel flow, je sais ma variété de flows qui peuvent continuer, je sais mes différentes façons de casser le rythme et tout, donc ça c'est des automatismes. Mais pour faire des chansons qui touchaient les gens, c'était pas comme ça. On va dire que ça c'était juste, ça me développait toutes les skills pour pouvoir faire tout ce que je veux, mais pour faire des belles chansons, bah, je ne peux pas forcer,
ouais,
tu vois. Donc maintenant, c'est vraiment, même si je n'ai pas écrit pendant deux semaines, je ne m'en veux plus. Avant, c'était là, pendant deux semaines, tu n'as pas fait de son, qu'est-ce qui t'arrive?
C'est ça qui est terrible. En fait, c'est les low vibes, les basses vibrations de la culpabilité.
Ouais.
Alors là, si l'artiste il descend là-bas dedans, tu es en fond de cuve, tu vois, énergétique. T'es hors de portée de l'intuition, tu vois.
Ouais.
L'intuition, c'est la poudre divine que les anges et Dieu parsèment sur ton coronal. Donc, si t'es au fond de la cuve, t'es hors de portée, tu vois. Rien ne va te toucher.
Exactement.
Et ça me rendait
très dépressif parce que même il y a un truc où je comptais, Bon, là, je m'en suis ressorti, je me sens mieux. Mais je pense que bon, ça va par vague. Mais je comptais faire une thérapie avec un psy sur un sujet précis. Parce que sur qui je suis, dans le sens où très souvent, on se définit par ce qu'on fait.
Bien sûr.
Et à un moment, je me commençais à me dire, mais imagine que un jour, tu arrêtes l'art, tu arrêtes de créer, tu fais plus de musique, tu n'as plus envie, ou tu abandonnes parce que ta carrière n'a pas marché, et tu as des enfants, et tout, bah, tu dois abandonner. Le simple fait de penser à ça me faisait me sentir un truc, parce que je me dis, qui je suis sans ça? C'est comme ça que je me suis construit. J'ai commencé à écrire des chansons, j'avais 13 ans, 14 ans. Toute ma personnalité, ça a été ça. Toutes mes relations que j'ai créées depuis l'adolescence aujourd'hui, c'est lié à ça. Même les meufs que je pouvais pécho, c'est parce que j'étais le mec qui rappait. Que quand j'étais invité à le truc, c'est parce que j'étais le mec qui rappait. À l'époque où très peu de gens faisaient ça, c'était pas aussi démocratisé qu'aujourd'hui. Quand quelqu'un qui me connaît, si je vais quelque part, et que quelqu'un va me présenter à quelqu'un d'autre. Salut, ça c'est mon pote Carlson, oui, il fait de la musique. C'est ça qui me définit. Et je me disais, mais si on m'enlève ça, qu'est-ce qu'il reste? Et il y a des moments où je sentais que j'avais plus envie d'écrire, de faire des chansons. J'étais dégoûté, mais ça me faisait me sentir tellement mal. Mm-hmm. Et je me suis dit, c'est un truc qu'il faut que je travaille dessus avec une psy, parce que c'est pas normal que je sois si dépendant émotionnellement de ma création ou de quelque chose que je fais. Parce que est-ce que mon identité, c'est censé être ce que je fais? Non, c'est censé être qui je suis.
Mais c'est ce que t'es, en fait.
Tu vois? Et j'avais ce truc-là.
Il y a cette phrase, on n'est pas un faire humain, on est un être humain, mm-hmm. être. Mais toi, être ce que t'es, c'est quelqu'un qui diffuse et qui partage au travers de la création.
C'est ça.
Il se trouve que on est dans une temporalité ou un certain style de musique dans lequel tu t'es reconnu, c'est le hip-hop, c'est la musique urbaine, c'est tout ça. Mais je pense que si tu transposes Carlson à l'ère médiévale, ça se trouve tu clamais sur la place du village avec des mélodies, tu faisais des vers, des alexandrins, et que c'était aussi ta façon de faire. C'est parce que ton âme est colorée de cette façon-là.
C'est ma raison d'être.
Je pense que c'est
mon ikigai, mais quand il disparaît, je ne sais plus qui je suis.
Mais c'est normal.
Et tout peut se passer bien dans ma vie. Je peux avoir, j'ai quelqu'un qui m'aime, tout le monde est en bonne santé, je suis heureux, je n'ai pas de problème financier, j'ai de l'argent, j'ai un logement, je reviens de vacances à Abidjan. Mais si je n'arrive pas à créer ou je n'ai pas l'envie de créer, tout ça ne compte pas. Je suis reconnaissant de tout ça, mais je vais être bien avec les gens, mais quand je me retrouve seul là, j'ai ce mal-être.
C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand tu passes dans la tête, que tu mentalises ce que tu es, que tu as le vertige, mais dès que tu reviens dans ton cœur, en fait, tu vois, tu es plus apaisé, en fait. C'est à chaque fois que tu montes là-haut que... Oh, qu'est-ce que je suis sans ça? Et c'est aussi ce truc d'accepter d'être tout et rien, tu vois. Quand tu acceptes d'être tout et rien, tout est OK. Et il y a autre chose aussi, je sais pas si on s'en était parlé, c'est cette idée de se dire j'ai déjà réussi ma vie. Et j'ai réussi plein de fois parce que j'ai eu plein de vies et je les ai toutes réussies, tu vois. Et là, celle-ci, j'ai déjà réussi. Et ça te détend, tu vois, t'es en mode, ok, si maintenant je fais de la musique, si je crée mes bijoux, si je diffuse plein de choses, je parle en ton nom, on en parlera tout à l'heure, mais t'as des super bijoux, et là j'ai
Nefertiti autour du cou. J'ai regardé, il y avait la lumière qui les faisait briller, ça scintillait.
et voilà, tout ça c'est juste du partage, c'est juste être au service des gens, diffuser de la beauté, de la poésie, de la musique, de la création, et c'est cool parce que tu te dis... tu fais une proposition et les gens qui sont en résonance, ils vont répondre présent et c'est très bien, tu vois. Et c'est ça, te calme en fait.
Je pense que j'ai souffert de la blessure d'humiliation.
Ah ouais?
Ouais, je veux pas trop m'étaler dessus.
Ouais.
Parce que, bon, la blessure d'humiliation, ça vient des parents.
Ouais.
Et je sais qu'elle sera triste si publiquement je parle de certaines choses. Donc je veux pas trop m'étaler dessus.
Ouais.
Mais je pense que j'ai souffert de cette blessure et j'ai compris que parfois les gens qui souffrent de cette blessure, inconsciemment, ils ont un gros besoin d'être reconnus.
Ouais.
Pas forcément d'être connus, mais d'être reconnus.
Dans le regard de l'autre.
Dans le regard de l'autre, ouais. Dans le regard des gens, dans le regard du monde.
Ouais.
En mode, j'ai de la valeur. Tu vois? Et ça, c'est un truc que j'ai jamais été conscient de ça. Hein. C'est en, après, peut-être que je me trompe, mais c'est en lisant le livre de Lise Bourbeau, c'est
ouais,
ça?
Oui, les 5 blessures de l'âme.
Ouais. Je regardais, je me disais...
C'est ça, c'est les 5 blessures de l'âme que tu as lu,
les 5 blessures, ça s'appelle les 5 blessures qui t'empêchent d'être toi-même.
Ah oui, c'est bon, voilà. Ça aussi.
Et donc, je regardais, première blessure, je me dis, bon, je me reconnais dans tel point, mais il y a tous ces points-là, je ne me reconnais pas. Deuxième blessure, je me reconnais dans ça, mais il y a plein de choses dans lesquelles je me reconnais.
Et ensuite.
Et en fait, celle-là, il y a aussi des choses dans lesquelles je ne me reconnais pas,
ouais.
Mais c'est celle dans laquelle il y avait le plus de choses qui me correspondaient.
Ouais.
Et notamment, parce que j'essaie de répondre à la question de pourquoi je veux changer la vie des gens, je veux impacter leur vie positivement.
Oui.
Mais je veux aussi être reconnu pour ça. Parce que je change déjà la vie de certaines personnes quand je donne à des associations.
Oui. Non, mais tes vidéos sont vues des millions de fois. Tu as beaucoup d'abonnés, les gens te remercient pendant
exactement.
Les lives. J'ai fait un live avec toi, les gens sont reconnaissants.
Je me nourris aussi de
bien
ça.
Bien sûr.
Mais c'est
de l'amour en fait.
C'est de la... ouais. Voilà, c'est de l'amour que je donne beaucoup. Mais j'aime beaucoup recevoir cet amour aussi.
Oui.
Il y a plusieurs personnes, par exemple, qui ne sont pas intéressées par ce type d'amour.
Bien sûr.
Et moi, je suis quelqu'un de très curieux. J'aime bien essayer de comprendre le pourquoi du comment. Et je me demandais, mais pourquoi je suis intéressé par ce type d'amour? Et pas simplement de l'amour de mes proches ou du truc, j'aime bien recevoir, j'aime bien donner beaucoup, j'aime aussi beaucoup recevoir. Parce que j'aime aussi donner de l'amour à même des gens inconnus. Simplement, je peux faire un compliment à quelqu'un dans la rue. Je n'attends pas un compliment en retour, il ne sait pas qui je suis, je ne veux plus de truc, mais je vais voir son sourire, il va être surpris. Ah bah oui, très belle chemise monsieur. Ah bah oui, merci.
En fait, t'as toujours l'impression quand tu fais ça de les sortir d'un état d'hypnose.
Oui, c'est ça.
C'est dingue.
Tu vois, donc j'aime bien.
Tu les réveilles.
J'aime bien parfois faire ça.
Ouais.
Et bref, je me suis perdu dans mes pensées.
Non, c'est parce que, oui, tu te posais la question, genre, d'où ça vient en fait ce besoin, cette envie de diffuser à grande échelle et aussi recevoir à grande échelle.
Ouais. Parce que quand je diffuse à grande échelle, et que, en fait, soit j'ai toujours le besoin d'être compris. Parce que je pense que j'étais très, très incompris en grandissant. Et j'étais très, très incompris parce que j'étais un petit peu le seul dans mon entourage, autant dans l'enfance que dans l'adolescence, puis que quand je suis arrivé en France, d'avoir eu mon vécu. J'ai un vécu très particulier. Déjà, ok, j'ai eu le décès de mon père quand j'avais 5 ans.
Ouais.
Plus tard, quand j'avais 12 ans, il y a eu une crise politique en Côte d'Ivoire. J'ai dû déménager, je suis allé au Bénin, je suis revenu. Ensuite, à 14 ans, il y a eu la guerre civile. Quand il y avait eu la France qui avait attaqué mon pays, donc mon pays, ils ont cherché les Français. Et moi, ma mère, elle est d'origine française, donc on a dû fuir. On s'est retrouvé dans des avions militaires belges où t'as même pas de siège, c'est des avions militaires, t'es dans des sortes de hamacs comme ça, comme pour les gens qui vont sauter des trucs, tu vois. J'ai eu des avions français qui bombardent mon pays, mais tu vois ça, je dors la nuit, j'entends des papa, et donc tu vois la guerre, ensuite venir se retrouver en France plus tard, et en France totalement déboussolé, pourquoi? Pour plusieurs raisons. Bon, la France, je le connaissais bien. Et puis, la Côte d'Ivoire, c'est très moderne. Donc, t'es pas déboussolé quand tu viens d'Abidjan par rapport à France. T'es plus déboussolé par rapport aux personnalités des personnes.
Ouais.
Et donc, là, j'arrivais ici et il fallait s'intégrer rapidement.
C'était donc, dur pour toi? T'avais quel âge là?
J'avais 15 ans. Un truc qu'on a la chance, c'est que les Ivoiriens, j'ai fait un truc, on a beaucoup de charisme. On arrive très vite à tchatcher les gens, les trucs.
Est-ce que tu as écouté l'épisode avec Jean-Pascal Zadi?
Non.
Les Ivoiriens.
Je sais, je vois très bien qui c'est. Mais on arrive très vite à mettre les gens à l'aise.
Ouais, c'est vrai.
De la bonne humeur et
beaucoup
tout,
d'humour. Et moi, j'étais à Abidjan il n'y a pas longtemps. Et qu'est-ce que j'ai rigolé. Ouais. Ah là
franchement,
là.
Parfois, tu vas à Abidjan, je sais pas, tu parles à n'importe qui, tu as l'impression qu'il peut faire du stand-up, tu vois.
À fond.
Et donc, grâce à ça, j'ai vite réussi à quand même me faire des amis et tout.
Ouais.
Mais c'est, on va dire que sur le coup, je ne m'en rends pas compte, mais quand je repense à qui j'étais à cette période, je me disais, t'étais pas toi-même. Mais sous forcément. Le prétexte de l'humour
mais
pour t'intégrer, tu acceptais certaines choses que t'aurais pas acceptées.
Oui, tu peux pas demander à un jeune homme de 15 ans qui arrive avec tout ce background
exactement.
D'être authentique.
Exactement.
Tu vois.
Voilà. Et c'est ce qui me frustre dans l'art, c'est quand parfois je fais un morceau et je me dis, putain, les gens, ils ont pas compris cette phrase, ils ont pas compris cette punchline.
Mm.
Et le fait d'être incompris, c'est un des pires sentiments pour moi.
T'es toujours accroché à ça, là,
à être
fait d'être compris.
Ouais, c'est ultra.
Moi, j'ai lâché ça.
Ah ouais.
Ouais, parce que tu ne peux pas.
Ouais.
Tu peux pas. Parfois, moi-même, je ne me comprends pas.
Mmh.
Tu vois ce que je veux dire?
Mmh.
Moi-même. Alors, comment je vais attendre d'autres âmes incarnées dans des corps physiques avec des oreilles qui ne captent que 0,5% de ce que je vais dire, des yeux qui ne voient que 1,2% de ce que je vais montrer.
Ouais.
Tu vois ce que je veux dire?
Ouais.
Déjà, biologiquement, c'est impossible.
Mmh.
Que ce que tu vas penser, ressentir, raconter va être reçu à 100%, ce n'est pas possible.
Ouais.
Après, tu as tous les filtres conscients, inconscients, le cognitif, les référents, tu vois,
ouais.
Les égrégores, je vais juste utiliser un mot, tu ne vas pas le recevoir de la même façon, tu vois. Et donc, du coup, juste ça, sur le côté cognitif et biologique, quand tu dis, la personne ne pourra pas comprendre ce que je vais dire. Elle va ressentir ce qui va résonner en elle avec ce que je vais pouvoir partager. Déjà, là, tu te dis, ok, dans la communication, chacun essaye de faire son max. Le seul truc où on peut rentrer en résonance avec beaucoup de vérité et d'authenticité, c'est de cœur à cœur.
Mmh.
J'avais fait un jour un rêve où en fait je voyais nos versions futures qui nous observaient un peu comme voilà, des bébés âmes et j'avais ressenti qu'eux communiquaient au travers de la télépathie.
Mmh.
Et nous voir nous communiquer avec des gestes et des mots, ils trouvaient ça terriblement archaïque parce que déjà on peut mentir avec les mots, avec les attitudes, avec, tu vois, mais pas avec la télépathie. Donc, ils nous considéraient comme des bébés âmes parce qu'ils partaient du principe que tant qu'on ne communiquait pas télépathiquement, d'âme à âme, de cœur à cœur, la communication était fake.
Tu sais, cette histoire de télépathie et de communication,
ouais.
Il me semble que c'est chez les Sumériens, c'est un peuple qui m'intéresse beaucoup.
Oui.
Dans leur histoire de l'humanité, j'aime pas employer le mot mythe parce qu'on adore dire ouais dans les mythes nanana,
oui.
Mais souvent les peuples ils ont jamais dit c'est notre mythe, ils ont dit c'est notre histoire.
Wow.
Ils ont pas dit les Incas, les Mayas, ils te disent pas dans la légende, ils te disent ça c'est notre histoire. C'est les Occidentaux qui disent la légende, le truc, etc. Donc voilà, donc dans l'histoire des Sumériens telle qu'elle a été traduite,
retranscrite,
ils expliquent que en fait, quand les dieux, les Anunnaki, Enki et Enlil, c'est les deux créateurs de la race humaine, entre guillemets, sont arrivés sur Terre, pas les deux créateurs, il y avait déjà les humains, ils ont changé. Et qu'en fait, on vivait totalement en harmonie. On vivait totalement en harmonie, etc. Et simplement parce qu'on n'avait pas de la parole. En fait, il y avait une télépathie, ce qui fait que je te regarde, je sais ce que tu penses. Je sais ce que tu ressens, tu me regardes, je sais ce que je pense, je sais ce que tu ressens. On ne peut pas se mentir, tu ne peux pas me cacher quelque chose, on ne peut pas se faire de couter dans le dos. Et que tout vivant dans l'harmonie. Et que lorsqu'ils sont venus pour conquérir cette planète à servir l'homme, la première chose qu'ils nous ont changé, c'est qu'ils ont enlevé ce don de télépathie et ils nous ont donné la parole. Et qu'à partir du moment où il y a eu la parole, il a commencé à avoir, il ne sait pas ce que je pense, je peux lui mentir, je peux lui cacher quelque chose. Ah, et en plus, différentes langues, eux ils parlent pas, on peut pas truc, nanana. Et que c'est là que ça a commencé à partir en couille sur Terre.
Oh, c'est génial!
À ce moment-là, et que ça a été ces divinités-là.
Et c'est Babel en fait.
Exactement.
Ensuite.
Ça a été ces divinités-là qui ont fait en mode télépathie terminée, maintenant vous parlez.
Oh, et c'est incroyable, j'ai trop bien fait de te parler
c'est
de
ça. C'est ça, c'est une histoire qui m'a toujours fascinée. Je me suis dit, mais il faut qu'on retrouve ce don de télépathie.
Waouh.
Ça a été vraiment leur stratégie. Boum.
C'est hyper intéressant, j'adore.
S'ils ont la parole, s'ils ne ressentent plus
tu
leurs sentiments.
Tu m'as donné une pièce du puzzle. Ouais. Bah ouais, ça crée la confusion. Exactement. Ensuite, tu vois, la fusion des cons.
Oh, très beau.
Et waouh. Et tu vois, bah justement, par rapport au fait de vouloir être compris, faut lâcher prise sur ça, faut accepter. Accepter. Tu penses que Kanye West, tu vois, t'as des totems, des archétypes.
Ouais.
Est-ce que tu penses que Kanye West, il se pose cette question? Ah, j'espère que je vais être compris.
Compris.
Il s'en bat les glaives. Il est en mode.
Totalement.
Je livre ce qui m'anime, le feu qui vibre, tu vois.
En fait, t'es vraiment d'accord, parce que quand il est pas compris, il pète un câble. Tu vas le voir.
Oui, il trépigne. En fait, je pense.
Il devient fou.
En fait, je pense que ce qui le rend fou, c'est pas lui. C'est la bêtise et l'ignorance des gens.
Ouais.
Parce que lui, il part pas du principe que les gens sont cons, contrairement aux politiques et aux médias. Lui, vu qu'il est connecté à sa partie divine, quand il parle depuis cet espace-là, depuis cette dimension-là, et il se dit. D'ailleurs, les gens qui le captent sont les gens qui sont connectés à une spiritualité et qui comprennent, tu vois, le sous-texte et la vibration de ce qu'ils partagent. Et les autres, c'est ça, en fait. Je pense que ce qui le rend furieux, c'est la bêtise ambiante, en fait. Et l'instrumentalisation de ce qu'il a pu dire, tu vois. Il doit se dire, putain, mais waouh.
Ouais.
Mais...
Et j'ai une phrase, en tout cas, quand on parle d'incompréhension, ça, c'est un de mes rappeurs français préférés. Non, je vais pas dire un, c'est mon rappeur français préféré de tout le temps. C'est Youssoupha, que j'ai eu la chance de rencontrer. On a passé des moments très bien ensemble et tout. Et dans le morceau Espérance de vie, à un moment, il dit je suis un éternel incompris, donc seul l'éternel me comprendra.
Mon cœur est si torride que je ne peux pas tout dire en deux phrases. Alors je frappe les esprits au bon endroit. Je suis un éternel incompris, donc seul l'éternel me comprendra.
Et cette phrase, cette punchline, elle m'a toujours marqué. Parfois, je me dis, ouais, bon, vas-y, Dieu il me comprend. le monde ne me comprend
c'est
pas,
ça,
mais voilà, je suis un éternel incompris, donc seul l'éternel me comprendra. Cette phrase, elle m'avait toujours
touché au final. Tu sais, c'est marrant, c'est un commentaire. Tu sais, j'aime bien m'amuser, laisser des commentaires un peu caustiques sur TikTok.
Ok.
Et j'avais fait un truc quand j'étais en Thaïlande où je parlais des hommes, que les hommes attendent. Des femmes puissantes, et quand ils sont avec une femme puissante, ils le regrettent, bref. Et il y a un gars qui me dit en commentaire, il me dit « Ah, mais c'est pas étonnant que les hommes te fuient. » Et je lui ai commenté, je lui ai dit « C'est pas grave que les hommes me fuient. » Non, il a dit « C'est pas étonnant que les hommes te rejettent.
Mm-hmm. »
Je lui ai mis « Rejeté par les hommes, mais aimé par Dieu, ça me va. »
Ah, la vache. Non, mais c'est ça.
Et voilà, et c'est ça aussi qui... À un moment donné, tu vois, quand tu... Je pense que c'est ça, le vrai pouvoir spirituel, c'est quand t'en as plus rien à carrer et que tu sais pourquoi, ce qui t'anime et pourquoi tu fais les choses, tu vois.
Spiritualista. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Pour en revenir sur la créativité, la création, les messages, l'intuition, quel lien tu as, Carlson, avec tes rêves?
On va dire que les rêves du quotidien, je n'y prête pas trop attention. C'est juste, parfois j'ai certains rêves où clairement, je me dis que ces rêves-là, ils m'envoient un message. En fait, c'est-à-dire, si je me réveille le matin, j'ai passé une bonne nuit, j'ai fait des rêves, je me dis ok. Mais lorsque je suis réveillé par un rêve, c'est là que je me dis, si le rêve t'a réveillé, écris. Quand je suis réveillé par un rêve et que je me réveille comme ça, je suis déboussolé, je ne comprends pas où je suis, mais attends, mais c'est un truc de fou qui va se finir. Là, je me dis, ce rêve-là, il est... parce qu'on rêve toutes les nuits. Donc je peux pas faire gaffe à tous les rêves. Mais quand un rêve me réveille, je me dis en général, il y a quelque chose à creuser dedans. Parce que les autres rêves, ils t'ont pas réveillé. Celui-là, il t'a réveillé. Donc ça veut dire que ton inconscient veut que ton inconscient veut que ton conscient sache ça. Ouais. Donc parfois c'est embrouillé, je comprends pas trop, mais j'essaie d'écrire directement ce dont je me souviens. Et une fois que j'ai écrit, bah souvent c'est des choses qui sont intéressantes, parfois c'est simplement un truc que je dois creuser sur moi-même, une compréhension à apprendre. Et vu qu'au final ma musique c'est vraiment moi. C'est moi, je donne vraiment moi, mes pensées, mes ressentis, mes émotions, mon histoire. Et j'essaie de l'écrire de sorte à ce que les gens puissent se reconnaître dedans. Donc parfois, je vais, au lieu de, même si je parle de moi, au lieu de dire je vais dire tu. Je sais que je parle de moi, mais je m'adresse à toi comme si c'est à toi que je parlais. Tu vois, il y a différents codes de façon.
Et tu utilises tes rêves dans ta création ?
Pas très consciemment. Je pense pas qu'il y a. En fait, si, j'ai déjà. Quand je composais des instrus, parfois je rêvais d'instrus. Parfois, parce que franchement, quand tu fais des instrus, c'est un autre game. C'est un différent high.
Ouais.
Parce que autant quand j'écris des chansons, c'est pour les sortir, pour les diffuser, etc. Autant quand je compose de la musique, j'ai des instrus. Parfois, c'est juste pour le kiff de le faire. Donc très souvent je fais des instrus, je sais que je vais jamais rapper sur l'instru, je sais que je vais l'envoyer à personne, mais le high du moment quand je suis sur mon clavier, il est intense.
C'est comme de la transe.
Voilà. Et parfois je peux rester sur la même boucle pendant des heures. Je me dis bon, il se passe quoi? Attends, vas-y, il est quelle heure? Tu vois? Et le high il redescend, mais c'est hypnotique la composition d'instru. Et donc il m'est arrivé quelquefois de rêver d'instru. Mais quand je les faisais, c'était éclaté. Tu vois, je me dis, attends, mais la mélodie, ça faisait quoi? Attends, vas-y, sors le truc. Je reste là pendant 2-3 heures, j'écoute le truc, c'est nul à chier. Donc, je pense que c'est une chose qui est censée rester dans les rêves, parce que quand je veux la recréer, c'est jamais ça.
Il fallait la laisser dans l'astral, au calme.
Exactement, elle était faite pour l'astral.
Astralisée.
La mélomée en transe, et c'est toute mon âme qui danse. Yeah. J'ai la clairvoyance, je suis toute leur manigance. Yeah. La nuit, mon âme s'évade.
Ça fait trop penser à Astroworld. C'est qui c'est, comment il s'appelle?
Travis Scott.
Astroworld. Très intéressant en fait ce titre et toute l'imagerie qu'il avait développée autour de ça.
Qu'est-ce qui s'est passé autour de ça?
Ouais, en plus, tu vois.
Ce qui s'est passé autour de ça, on va pas rentrer dans des conspirations, dans des complots, on oublie même ça. Si on parle juste en termes d'énergie.
Une énergie détournée.
L'énergie était tellement sombre. En termes de visuel, en termes de sonorité, les basses fréquences qui touchent le chakra racine, la symbolique, même s'il y en a beaucoup qui aiment beaucoup utiliser des imageries d'Aleister Crowley, des imageries d'hypnose, des imageries de démons. Ok, si tu veux, c'est ta création artistique, on oublie le complot.
Tu sais que je suis en train de lire un bouquin d'Aleister Crowley.
Tu m'as dit, enfin tu l'as dit en
story. Sex Magic,
ouais.
J'en suis à la moitié.
Ouais.
Écoute, je pense que je vais me mettre à faire des vidéos YouTube sur des thèmes comme ça. Il y a par exemple l'anime Ingress que j'ai découvert sur Netflix. Okay, si tu connais pas, je t'en supplie, Matt, c'est autour des énergies.
Okay.
En fait, j'ai envie de parler de choses issues du divertissement, tu vois, et apporter un petit éclairage. Par exemple, sur Aleister Crowley, ça fait longtemps, tu vois, que je suis en attraction, répulsion sur ces bouquins parce que je sais que voilà, c'est un grand mage noir, mais qu'en même temps, il y a de la connaissance dedans. Et voilà, la connaissance, c'est la connaissance, après avoir comment tu l'utilises. J'en suis à la moitié du bouquin. En fait, ce que je ressens, c'est qu'il y a un texte dans le sous-texte. C'est-à-dire que c'est pour des initiés. Lui-même le dit, il dit il appartient à des loges au moment où il l'écrit, qu'il est influencé par beaucoup de choses et tout ça. Quand je lis, moi je sais qu'il y a une partie de moi qui n'arrive pas à décoder, tu vois. Mais quand je lis, je comprends des choses. Et il y a plusieurs prismes. En fait, ce que j'ai l'impression dans son texte, c'est toi, selon tes intentions, il t'ouvre des portes.
Ouais.
Le seul truc que j'ai trouvé vraiment tendancieux, j'en parlerai dans ma future vidéo, il y a une page où en lecture, où c'est écrit en manuscrit comme ça, Baphomet. Tu vois.
Ouais.
C'est le seul truc que je me suis dit, ah, tu forces, frère.
Bah, tu sais, moi, par rapport à ce gars-là, c'est un gars qui me fascine. Et justement, tu parles de ça, en fait, là, dans mes TikTok, je pense faire une série sur les célèbres occultistes. Genre, une vidéo où
c'est
je
clairement
parle de, en fait, les célèbres occultistes, des occultistes dont la plupart des gens ne connaissent pas.
Mais qu'on influence mais de fou dans la pop culture.
Les gens, les films, les sont inspirés par ce mec-là. Comme
les Beatles, Jay-Z.
Madame Bavlaski.
Ah oui.
Tu vois, elle aussi, c'est énorme. Et il y en a 3-4 comme ça. Je me suis dit, il faut que je fasse une série de vidéos sur les autres.
Trop bien.
Et quand tu parles d'attraction, répulsion, moi, ce mec-là, c'est exactement la même chose. Parce que bon, j'ai beaucoup étudié sa biographie, ce truc. J'avais commencé à lire le livre de loi, de Book of Law.
Oui.
Mais j'ai arrêté. Parce que je me sentais mal quand je le lisais. Je me sentais mal parce que j'avais peur, j'avais des a priori. Et surtout, en fait, ce mec-là, tu vois, il y a certains... Je crois que le livre de loi, il a écrit en écriture automatique.
Ouais.
C'est ce qu'il
dit. Je prends 7-8 jours, une nuit.
Automatique. Il a eu l'inspi quand il était dans une tombe. Il visitait une tombe en Égypte. Et il a été possédé.
Exactement.
Il a écrit, voilà.
Oui.
Sauf qu'en fait... Donc, en dehors du fait que certaines de ces pratiques occultes ont été reprises par plein de groupes qui font des très vilaines choses, et même si on dit c'est un enseignement, tu l'utilises pour le bien ou le mal, c'est vrai. Mais lui-même,
en fait,
par exemple...
En fait, j'ai compris qu'il n'y a pas vraiment de bien ou de mal. C'est plutôt, est-ce que tu l'utilises pour toi ou pour le collectif? En fait, c'est plus comme
moi,
ça.
Moi, je veux dire pour la destruction ou pour la création.
Même ça, je trouve que c'est dualiste.
C'est dualiste parce que... Moi, je pars du principe de si tu utilises quelque chose pour créer pour toi, mais en le faisant, tu absorbes l'énergie des autres.
Comment tu joues avec l'énergie?
Ou tu
vampirises la terre.
Tu vampirises la planète juste pour toi.
Ou des gens.
Tu fais vibrer des gens super bas pour pouvoir toi vibrer super haut.
Mais tu sais, j'adore là, ce qu'on échange. C'est... vu qu'on est dans une simulation dualiste dans la 3D, c'est toujours ces gens-là, ces entités-là, qui nous mettent face à notre complexité, qui nous permettent de grandir, de nous affranchir. Exemple, tu vas prendre l'égrégore France, politique, gouvernementale, la fiscalité, qui est la fiscalité la plus haute dans le monde, en fait. Tu vois, genre les impôts en France sont les plus élevés sur la planète entière. T'es là, t'es né ici, tu subis ce truc-là. Et ben, ce système, toi, va te pousser à trouver des solutions. Tu vois, à évoluer, à ouvrir des choses, à prendre conscience de choses, à aller documenter, à aller voir ce qui se passe ailleurs, comment tu peux faire, tu vois. Donc en fait, c'est toujours le système oppressif, injuste, qui va te permettre de grandir, de t'émanciper.
Oui.
Tu vois?
Oui.
Et donc, par exemple, tu vois, genre, les occultistes dark, avec leur influence sur le monde, tu sais, parce qu'il y a cette formule du « l'ombre n'en a pas conscience, mais l'ombre travaille pour la lumière ».
Pour éclairer qui?
J'adore la question, pour éclairer quoi? Pour éclairer qui?
Moi, c'est ça. En fait, par exemple, donc Crowley, comme je disais, il me fascine parce qu'il a des enseignements de fou, de ce qu'il... Mais, tu vois, pour revenir, par exemple, sur le cas du livre de loi.
Oui.
Lui, il t'explique mot pour mot, j'ai été possédé par un démon. Il ne dit pas j'ai été possédé par un esprit. Il ne dit pas j'ai été possédé par un ange. Et j'ai l'impression que très souvent, ces sources d'inspiration sont vraiment dans le bas astral. De toute façon, on peut couper au montage si je dis quelque chose qu'on n'est pas censé dire dans le podcast. Mais à moins que je me trompe, toi qui lis Sex Magique, ou c'est peut-être pas dans ce livre, mais il y a des livres où ils prônent la sexualité d'adultes envers des enfants pour avoir une émancipation sexuelle.
Alors là, tu vois, en fait, c'est bizarre. Quand je te dis qu'il y a plein de portes d'entrée dans le livre, j'ai lu un espèce de texte où il parle d'une vierge et d'un enfant avec un cérémonial comme ça, tu vois. Et en fait, moi, dans ce que je lis, je vois quelque chose qui peut totalement ressembler à une espèce de pièce de théâtre... Ok, mais je me dis des occultistes qui sont dans des trucs de partous bizarres, de rituels tendancieux avec des pratiques fétiches qui leur appartiennent, peut utiliser cette guideline pour en faire autre chose, tu vois. Tu peux totalement en faire un truc énergétique pur, de l'enfant et de la Vierge, un truc, voilà, ce que ça vaut, quoi, parce que ça reste écrit par un homme avec une vision masculiniste, tu vois, donc... Mais, voilà, moi, quand je lisais ça, je me disais, ah putain, c'est ouf, dans son texte, il y a plusieurs entrées,
ouais.
Selon les perceptions, les envies, et comment t'as envie d'instrumentaliser ça. Je ressentais de ouf.
Ouais.
Quand j'ai vu qu'il mettait en scène un enfant et une Vierge, ouais. Je me suis dit, ça, là, tu peux en faire un truc dark.
Et il y en a beaucoup qui en font des trucs dark.
Bah ouais.
Malheureusement, quand tu vois les réseaux pédos,
ouais,
satanistes,
bah
très
temps.
Souvent, c'est, ils sont disciples de... Il y a beaucoup de disciples de Crowley.
Mais est-ce que t'as capté qu'hier, ouais. Chez Hanouna, j'en parlais avec une de mes meilleures amies tout à l'heure, ils ont parlé d'adrénochrome.
Ah, c'était avec Gérard Fauré.
Ouais, avec le ouais.
Ah, j'ai
alors
vu
lui,
Gérard,
tu vois,
j'ai vu, moi, je le kiffe. J'ai vu Gérard Fauré, mais j'ai pas vu le truc.
Lui, c'est un des soldats de l'apocalypse. Lui, lui, il arrive.
Lui est Carl Zéro.
Ouais.
Moi, c'est deux gars-là.
Mais tu sais, il y a toujours ce truc où, je sais pas si t'as conscience de ça, c'est ce qu'on appelle l'opposition contrôlée.
Là, on parle vrai.
Parce que quand tu dis que c'est Bolloré Hanouna qui invite le gars, qui parle d'adrénochrome, de pédocriminalité des élites, qui ça balance des noms, le gars il a carrément parlé de Céline Dion pour le sujet de l'adrénochrome, tu vois, en direct à la télé, l'émission la plus regardée en France, tu vois, on est sur 2 millions de téléspectateurs là, en direct, sans parler des rediffs et des TikTok qui tournent. C'est énorme. Du coup, tu te dis, c'est pour ça que j'ai envie que tu regardes Ingress sur Netflix. Parce qu'on t'explique qu'il y a comme des vortex d'énergie qui sont les illuminés et ceux qui sont en gros les agents Smith, tu vois, qui veulent préserver la matrice. Est-ce que le vortex Hanouna a été récupéré par la lumière pour diffuser, tu vois, détourné? C'est ça en fait. Ou est-ce que c'est de l'opposition contrôlée et qu'on est encore dans le spectacle, on divertit avec du drama et on fait baisser les vibrations du collectif?
Je pense que c'est un peu des deux. Parce que si on prend par exemple le cadre de cette émission, on a vu que quand il y avait un député qui a dit des dingueries, on a shut down l'émission directement.
Ouais.
Donc là, tu sais qu'il n'y avait pas d'opposition contrôlée.
Ouais.
Et donc si ce que Gérard Fauré disait dans cette émission dérangeait les patrons de cette émission, ils allaient shut down directement, ou ils n'allaient pas mettre les
ressources. Ils ont shut qu'à un moment donné, je lisais les commentaires sur TikTok pour voir comment les gens percevaient ça, quand ça a commencé à parler de Macron.
Ok, voilà. Mais donc, en fait, très souvent, c'est que quand il y a des... Par exemple, prenons le cas de Epstein. On a tous vu le documentaire sur tout ce qu'il a fait. Et on se rend compte que c'est après peut-être 20 ans ou 25 ans où il fait ça qu'on décide de l'arrêter. Alors que le FBI, la CIA savaient depuis très longtemps, lui-même, on pense qu'il était connecté au Mossad, etc. Mais quand on se dit que là, quand on fait tomber un mec comme ça, c'est que le réseau entier risque de couler et il faut faire tomber quelqu'un.
Ouais.
En gros, en mode, là, il s'est passé quelque chose entre eux, peut-être qu'ils savaient qu'il y avait, je sais pas, Epstein dont les vidéos ont été chopées, et il y allait avoir tel président, nanana, et qu'il fallait donner quelque chose à la police, donner quelque chose
à manger
au final,
pour calmer.
C'est toi qui tombes.
Ouais.
Et,
mais tu
et sais, toute l'histoire, c'est lui.
Ça y est,
c'est
on a trouvé.
On va plus trop fouiller.
C'est fini.
Trouvé, tu vois.
Et mais tu sais, mais moi j'ai une théorie, tu sais, moi je suis queen of conspiracy, tu vois, genre, vraiment les théories du complot, ça a été le début de mon éveil en fait.
Non, pareil, 2012 pour moi.
Pareil, moi aussi, on était dans la même vague. Et c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse encore plus parce que moi j'avais le prisme, tu vois, journaliste en fait. Donc c'était trop intéressant pour moi d'être à l'intérieur et à l'extérieur. Ça me permettait d'avoir une vision globale de tout, quoi, des instruments de pouvoir et la contre-vérité du conspirationnisme. Et par exemple, tu prends l'exemple d'Epstein. Moi, comment je ressens les choses, vu que, pour reprendre Elon Musk, si on part du principe qu'on est dans une simulation, lui, c'était clairement un agent secret avec sa femme de l'époque. En fait, elle est sortie de chez elle. Elle savait qu'il y avait les paparazzi qui l'attendaient.
C'est Ghislaine ?
Ouais, Ghislaine.
Là, tu parles de quelle
année ? En fait, au moment où on a annoncé qu'Epstein s'était suicidé dans sa cellule, on l'a filmé avec nos doigts, là.
Ouais.
Elle, 24 heures après, il y avait les paparazzi devant chez elle. Elle est sortie volontairement avec un livre à la main. parce que c'était un message codé. Mm-hmm. Et ce livre-là, je l'ai acheté, c'est sur la CIA et comment on exfiltre les agents quand on n'a plus besoin d'eux. Mm-hmm. Et en lisant le livre, je me suis dit, OK, il y a un texte, il y a un sous-texte. J'ai compris qu'elle faisait passer un message pour faire comprendre aux gens, il ne s'est pas suicidé, il a juste été exfiltré. Et, et c'était très intéressant en fait de lire ce bouquin parce que tu comprends aussi comment on sort le pion du jeu quand on n'en a plus d'utilité. Et c'est passionnant parce que ça me fait penser aux hauts cadres issus du nazisme qui ont tous récupéré des postes de pouvoir aux États-Unis, notamment le gars qui a créé la NASA.
Et les mecs qui sont barrés en Argentine.
Ouais, en fait, ils ont tous récupéré des postes de haut à haute responsabilité dans tout ce qui est... manipulation de la conscience collective, tu vois, parce que la NASA, c'est un outil de propagande. Et ça, c'est intéressant de se dire que ces agents-là, en fait, sont jamais punis pour leurs méfaits, donc ça peut aussi remettre en question ce qui s'est passé. Enfin, les agents qui étaient en ordre. Quand tu vois comment les personnes qui étaient au pouvoir à ce moment-là sont protégées, en fait, et comment on conserve leur expérience, comment on respecte ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont développé pour les utiliser.
Exfiltrer pour les utiliser ou éliminer quand on ne peut plus les utiliser. Donc je pense que, par exemple, ce mec-là, Epstein, là, lui, son rôle, organiser ce sort de soirée, orgie avec des jeunes pour faire en sorte que des hommes puissants soient compromis, tout est filmé, tu peux pouvoir faire du chantage après, blablabla, tout ce genre de trucs. Si c'était ça sa mission, ben là clairement il ne peut plus l'accomplir.
Ouais.
Parce qu'il est fiché partout. Donc à quoi il peut servir? Soit il peut peut-être se retourner contre nous, parce qu'il sait qu'il va faire sa vie en prison et peut-être qu'on va lui dire si tu dénonces 2-3 personnes, ça réduit ta peine. Donc il va peut-être le faire. Il ne va pas le faire. On va l'éliminer.
C'est
même si on l'exfiltre, on lui dit non, tu vas vivre au Pérou, tu as une nouvelle identité.
Ouais.
On ne sait pas. Il peut se réveiller parce que, surtout aujourd'hui, avant tu pouvais faire ça, exfiltrer les gens quand ils avaient envoyé les nazis en Argentine, etc.
Ouais.
Le nazi, sur un coup de tête, il ne pouvait pas faire un tweet. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Mais aujourd'hui, tu vas il se réveille, tu sais qu'en fait, ils niquent tout cela, ils ont qu'à me buter, je m'en fous. Boum, il fait un tweet, il poste il fait des lives. Avant que tu viennes le chercher et l'éliminer, tout est déjà divulgué. Donc je pense que maintenant, moi par exemple, si on reste dans ces thématiques, on parle de pion, pour moi justement, on parle de Kanye West. C'est pour ça que c'est une personne que j'apprécie tant aussi, mais avec qui j'ai aussi beaucoup de méfiance. Parce que tu sens que dans toute sa carrière, il a été dedans. Il a été un agent de ce système.
Ouais.
Puis il a voulu sortir de ce système. Puis il est revenu dans ce système. Puis il a voulu... Et pour moi, ce qui s'est passé ces deux derniers mois, c'était
climax, apothéose.
Le climax de fuck tout. Là, dévoile tout, je fais tout. Et surtout, maintenant, j'ai le pouvoir... financier, je paie 7 milliards de dollars. Donc, il y a des gens qui dépendent de moi. Quelque chose qu'il ne pouvait pas faire il y a 4-5 ans.
Ouais.
Parce qu'il n'avait pas ce pouvoir financier, cet établissement, cette influence, ce truc. Il avait l'influence culturelle, mais pas l'influence monétaire, tu vois.
Exact.
Et donc, pour moi, là, ça a été le moment où ce pion-là, qui a été un de nos plus puissants agents depuis tout ce temps, pour influencer les masses, pour les faire consommer, pour les mettre dans la Matrix, pour faire divulguer nos images, nos trucs subliminaux, etc. Depuis tout ce temps-là, maintenant, il est en train de nous partir et il veut tous nous détruire. Il faut l'éliminer. Il faut l'éliminer. Et c'est pour ça qu'il disait à chaque fois dans ses dernières interviews, les gars, je ne suis pas suicidaire. C'est un truc bizarre, je ne suis pas suicidaire. Si vous dites que je me suis suicidé, c'est eux qui m'ont tué. Les gars, je ne suis pas défrécité.
Mais ça, c'est
vous. J'ai fait une overdose. Moi, je crois beaucoup en MK Ultra.
Ouais. Je suis rentrée par ce trou du terrier, moi, quand j'ai découvert.
Voilà.
J'ai découvert le mind control.
Voilà. Et pour moi, là, ce qu'il avait fait, il avait dévoilé une preuve au grand public, sauf que le grand public, ils aiment se mettre des œillères. Je sais pas si tu es au courant, moi j'ai suivi toute cette affaire de A à Z. On parle d'incompréhension.
Ouais.
Déjà, la première incompréhension qu'il y a eu du public, tu peux couper si tu n'as pas envie qu'on parle de ça, son premier truc où il a parlé des juifs.
Non, d'abord, avant ça, c'était
Candice Owen,
400 ans d'esclavage.
Oui, oui. Non, ça c'est depuis 2015.
Mais oui,
non,
ça y est, d'abord,
je parle des trucs récents.
Ouais, récent, ouais.
Il a dit I'm feeling sleepy tonight, I'm going deaf country on the jute.
Oui.
True. Ok. Et tout le monde a dit deaf country, c'est une arme militaire, il dit qu'il veut détruire les juifs, il parle de l'armée, c'est une arme. Mot pour mot. Deaf country, ils ont dit que c'est le niveau de défense militaire. Mmh. Apparemment, le niveau d'attaque, c'est DEFCON 4 ou DEFCON 2, je ne sais plus. Mais tu vois la nuance de l'incompréhension. En gros, ce qu'il disait, maintenant je vais mettre le niveau de défense maximal. Sauf que bon, il a dit contre les juifs, il aurait pu préciser contre les juifs qui contrôlent l'industrie. Voilà. Mais tu vois comment en un détail, on peut changer le truc.
Ça, c'est incroyable.
Tu vois, c'est bon, bref.
Et oui, c'est toujours comme ça.
Et pour moi, cet agent-là, il a fait une révélation que j'ai trouvé bon dehors, qu'il a commencé à parler des sacrifices, de trucs, etc. Il a posté un message de son personal trainer sur Twitter.
Oui.
Son personal trainer qui lui disait il faut qu'on parle. Et il lui dit, et quand on parle, je veux que tu sois calme, etc. Parce que si tu ne coopères pas, je te ramène à Zombieland. On va t'interner, on va te donner des médicaments, etc. Ouais. Et tu vas redevenir un zombie. Et il a posté ça en lui disant, vous voyez les choses qui se passent quand j'ai été interné de force, etc. Là, c'est un gars qui est censé être mon personal trainer. C'est pas un personal trainer.
Mais tu sais qu'ils ont handler. J'adore, c'est les handlers.
Et ensuite, on a commencé à chercher qui est ce personal trainer. C'est un mec, c'est officiel, c'est pas de la conspiration.
Qui
travaillait pour l'armée américaine,
ouais,
qui faisait des tests de drogue, etc. Ouais. Et clairement,
attends, on va juste préciser pour les gens qui nous écoutent, un handler, c'est quelqu'un qui a la main mise sur toi, qui te surveille, qui observe qui tu fréquentes, qui tu appelles, à qui tu parles, t'es sous contrôle en fait, t'es sous surveillance. C'est un agent qui est là pour te surveiller. Il faut savoir que toutes les stars hollywoodiennes de premier plan ont un, deux ou trois handlers autour d'eux, que ce soit Miley Cyrus, que ce soit Britney Spears. On n'en parle même pas, c'est même pas si elle est encore parmi nous, Bichette. Ils ont tous des handlers. Il paraît que Kris Jenner, la maman Kardashian, paraît que le gars avec qui elle est là depuis longtemps, j'ai oublié son nom, qui a été un garde du corps, comme par hasard, de plein de stars. En fait, quand t'as un garde du corps de plein de stars, tu sais que c'est un handler, tu vois. Beyoncé, elle a le même garde du corps depuis longtemps, c'est un de ses handlers.
Voilà.
Ils sont là, ils surveillent. Quoi,
et c'est pas juste des mecs qui sont là pour ta sécurité physique.
Non.
Ils sont là pour être sûr que tu pars pas en couille, que tu vas pas divulguer je sais pas quoi, que tu respectes
opérationnel.
Et MK Ultra, donc clairement quand il avait été interné après avoir fait
MK Ultra, juste préciser, le conspirationnisme c'est quand même partir de documents qui sont hyper clairs. Le MK Ultra, c'est des documents qui ont été déclassifiés par la CIA, qui datent du milieu des années 50, qui sont du coup déclassifiés depuis pas mal d'années maintenant, qui sont disponibles, qui sont très clairs, où tu vois comment ils fonctionnent pour contrôler les gens. C'est à base de médicaments, de violences physiques, psychiques, d'internement, d'isolation sensorielle. Il y a plein d'outils pour faire ça. Voilà.
Et le but, c'est de créer une dissociation dans ta conscience. Ils disent que, en fait, avec les drogues qui vont te truc, les électrochocs, les différentes violences mentales, spirituelles qui vont te faire subir, vont faire qu'à un moment, on va dire, tu vas te dissocier, tu splits, tu ne peux plus supporter ça. Et à partir du moment où tu splits, il y a une partie dans laquelle on peut intégrer des nouvelles idées.
Ouais.
Parce que là, tu as une partie de ta personnalité qui est morte. Donc maintenant, on peut t'intégrer des nouvelles convictions, des nouveaux idéaux, des nouveaux objectifs, des nouvelles... Tu peux te réveiller, il y a une femme et on va te dire, bah, en fait, tu es marié avec elle depuis 15 ans, tu ne savais pas, mais on t'a mis ça dans ton cerveau.
Et c'était utilisé, en fait, c'était une arme militarisée à la base, le MK Ultra, pour pouvoir avoir des agents, des sex slaves, donc des esclaves sexuels. D'ailleurs, des personnages comme Marilyn Monroe le sont. Et il y a plein de gens, là, j'ai vu des TikTok sur Lady Gaga, sur Beyoncé, sur tout ça.
Charles Manson. T'as suivi Charles Manson?
Ouais, Charles Manson aussi. Il en programmait, c'était ça, non?
Lui, il était un agent pour tester, en fait. En fait, tout le culte de Charles Manson.
Ouais.
Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que lui, il a fait toutes les lingueries. À chaque fois, il allait en prison, il revenait pas. Et il y a des documents qui sont sortis.
Wow.
Explique qu'en fait, Charles Manson, il était utilisé par la CIA Donc, il avait sa petite secte de hippies qu'il créait. Et c'est la CIA même qui lui fournissait la LSD
ouais.
en mode fais ta petite secte, etc.
Nanana. Et fais tes tests.
On veut voir avec ces substances-là comment toi t'arrives à manipuler
oh,
les gens. T'as
okay.
réussi à faire que.
C'est un labo quoi.
T'as réussi à faire que cette jeune fille-là quitte toute sa famille, aille commettre un crime, parce que tu sais comment lui parler. On t'a dit comment il faut parler aux
comment
gens, comment l'hypnotiser, comment utiliser telle substance, comment lui faire peur, la violenter. Tu vois, et qu'il y a plein de. Moi, c'est dans Joe Rogan, ils en parlent souvent. Autour de Charles Manson, c'était pas juste un cult leader. Je pense qu'il était très protégé par la CIA.
Il était impliqué dans des expériences.
Dans des expériences.
Ok.
Dans des expériences.
Donc, MK Ultra, les sex slaves, les esclaves sexuels. Il y avait aussi, les tueurs à gages, les personnes qui peuvent tuer sous commande, comme
Exactement.
Ça.
Exactement.
Eux aussi étaient dans les expériences. Les agents secrets qui doivent récupérer des informations, mais ne pas se souvenir, eux, de l'information qu'ils portent.
Exactement.
Donc, en fait, quand ça split les personnalités, comme tu l'expliquais, au travers de hauts traumatismes, on peut créer une clé, un code d'activation.
Mm-hmm.
Donc, par exemple, Carlson, je te dis, pâquerette blanche, boum, tu vas me révéler toutes les informations.
Je change ma personnalité directement exact. Et je me souviens de tout.
C'est ça.
Et quand tu vas me dire pâquerette noire,
boum, tu refermes. Et ça, c'est ça c'est réel, en fait. Ça fait partie du mind control. Il faut aussi savoir que toutes ces choses-là qui ont été validées au travers d'expériences depuis des dizaines d'années, ça existe depuis très, très longtemps, sont aussi utilisées dans le marketing, dans la publicité, dans le commerce, dans les règles de vente. Voilà, on t'hypnotise, on te fait peur. Les politiques utilisent ça. Si on voit la situation covidesque, ça a été ça. Ça a été la peur, le chaos, la confusion pour prendre contrôle sur ton mental et pouvoir te gérer comme un pantin. Donc, avoir conscience de ça, ça permet d'avoir une grille de lecture quand même relativement claire du monde dans lequel on vit.
C'est ça, en fait. En fait, quand j'avais commencé à rentrer dans ce genre de choses, au début, c'était une confusion. Mais maintenant, en fait, je lis le monde de manière tellement claire. Par exemple, les événements majeurs, en fait, tout est logique. Ce qui s'est passé, si on retourne
c'est
sur
très
le 14
mars
2016,
en fait.
Il a fui, allé en Ohio, il voulait rester loin de sa famille, il a dit des choses sur scène, des trucs de l'esclavage. On a dit qu'il était fou, qu'il était bipolaire, on l'a interné.
En fait,
il est ressorti après.
Il
sortait de son mind control. Exactement. On a dû le réenfermer, lui refaire du contrat,
ouais.
revenir. Et là, je pense que récemment, ça a encore été la même chose. Parce qu'après son dernier pétage de câble, qu'il a dit « fuck, je m'en fous, même si je perds tout,
ouais.
mon argent, il a tout perdu, etc. » Il a disparu pendant quelques mois. Tu ne le voyais plus. Le mec revient de nouveau, ok. Tous ses combats qui étaient à cœur, c'est comme s'il a complètement oublié.
Ouais.
Tout ce qu'il dénonçait chez Balenciaga, etc. Il est redevenu ami avec Balenciaga. Adidas, il a repris le contrat. Et il est tout adouci
oui.
et truc. Tu vois ce que je veux dire? Et tu peux pas dire non, ils lui ont donné de l'argent. Non, ils sont fous. On a vu qu'ils sont fous.
Ça.
Et clairement, moi, il a eu son nouveau même contrat. On l'a réadouci. Mais juste pour rebondir sur ça, je pense que ça peut beaucoup intéresser les gens. Mon réalisateur de cinéma préféré, pour moi, c'est Stanley Kubrick. Parce que Stanley Kubrick, déjà avant ses films, je les aimais sans trop truc, mais depuis que je suis dans la spiritualité, dans l'occultisme, Stanley Kubrick, c'était un mec qui était initié, il traînait dans les sphères et il dévoilait ces choses-là à travers ses films que les gens considèrent comme des fictions, mais il dévoilait énormément de choses. Il y a même des gens qui pensent que c'est pour ça qu'il est pas mort de manière naturelle. Mais quand tu regardes les différents films de Stanley Kubrick, clairement Orange Mécanique, il te décrit comment fonctionne MK Ultra. Il ne nomme pas MK Ultra, mais quand tu regardes la description de MK Ultra de la CIA et ce qui se passe dans Orange Mécanique, c'est exactement ça. Dans le film Eyes Wide Shut, quand il te montre Eyes Wide Shut, il te montre ce qui se passe dans les loges telles que le Bohemian Groove, les rituels occultistes, des élistes, les rituels d'Alistair Crowley. Il te dévoile ça dans Eyes Wide Shut. Quand tu regardes dans Shining, il te montre comment le monde des esprits peut t'affecter, comment toi-même tu peux te créer des entités qui ne sont même pas vraiment là.
Comment tes pensées peuvent devenir ton enfer.
Exactement. Mmh. Et chacun de ces films, il te dévoile certaines de ces choses. Et pour moi, c'est un de mes réalisateurs préférés. J'ai trop de respect sur lui.
Quand tu regardes les films de Kubrick, c'est comme si tu as vu de la Ayahuasca.
C'est ça.
Et Kubrick, c'est lui qui a fait l'Odyssée de l'espace, je crois. Parce que Kubrick, chez les complotistes, il est très très respecté aussi, parce que ce serait lui qui aurait...
On dit que c'est dans son studio qui a été filmé... La NASA qui
on a marché sur la lune.
On a marché sur la lune. Ouais, c'est sûr.
Ouais, on a marché sur la lune. Voilà, la vidéo de propagande américaine pour parce qu'en fait, ça se tapait avec les Russes à l'époque. Mm-hmm. Les Russes.
Ils allaient arriver sur la lune avant nous.
Voilà, et donc du coup,
Yuri Gagarin.
Ils ont loué un stud. Ils ont dit, hey, ramenez les cosmonautes.
Voilà, c'est ça. Faut qu'on dise qu'on est arrivé là-bas avant. Ouais.
Voilà. Ça, j'adore. Mais renseignez-vous sur Von Braun, le gars qui a créé la NASA. Fin des années 50 pour parce qu'il y avait justement moi j'adore les expéditions en Antarctique début des années 50 avec des choses qui auraient été découvertes et forcément boum, il a fallu créer la NASA pour supplanter ce qui avait été découvert et qui pouvait fuiter, tu vois. C'est passionnant, enfin moi j'adore en fait, je suis hyper curieuse de tous ces sujets.
Surtout il y a beaucoup de gens qui aujourd'hui minimisent toujours la spiritualité, l'occultisme. Même si tu n'en veux pas dans ta vie, ça ne t'intéresse pas, il y a beaucoup de gens qui minimisent comment toute notre histoire a été énormément influée par ce genre de choses. Que ce soit, donc là on parlait par exemple de Crowley, de l'histoire Crowley dans la culture populaire, aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui, Hollywood, etc. Mais même si tu pars à l'enterre, Hitler... c'était un occultiste.
Mais bien
de
sûr.
Fou.
Mais
de dingue.
La symbologie nazie est très puissante.
Et moi, quand j'ai découvert ce truc-là, il était dans une société, je crois qu'on en avait parlé, qui s'appelait la société Thule. La société Thule ou Thule, je ne sais pas comment on prononce. Thule Society. C'était une société ésotérique,
ouais,
avec beaucoup de membres nazis et autres. Et en gros, ce qu'ils voulaient faire avec la race aryenne, c'est clairement, en fait, c'est une société où ils croient à fond à l'Atlantide. Et ils sont persuadés qu'il y a eu des restants des Atlantes qui ont réussi à fuir l'Atlantide et qui se sont diffusés quelque part dans le monde. Et ils veulent recréer cette race-là, retrouver les restants de cette race et en faire la pureté de cette race.
Ouais.
Et tu regardes, il y a des vidéos d'archives où tu vois, tout avant même 39-45,
ouais,
tu vois les nazis qui vont au Tibet, ils sont en train de mesurer la tête des gens, de faire des expériences spirituelles. Ensuite, ils vont en Inde, ensuite, ils vont en Égypte, ils vont en Afrique. Parce que tout leur truc-là, sa base, c'était une croyance occultiste,
totalement, bien sûr,
auquel ils croyaient à fond. Qui a creusé toute la destruction qu'on a vue, mais l'occultisme a influé trop de choses dans ce monde pour dire c'est juste des trucs farfelus.
C'est comme une énorme déflagration de magie noire en réalité.
Exactement.
Et lui, il a été cet instrument du pouvoir de diffusion.
Ouais.
Et quand tu fais du yoga Kundalini, tu découvres qu'il y a un geste qui est vraiment celui du salut nazi, comme ça, qui est un geste qui te connecte à ton égrégore de pouvoir, de puissance, qui nourrit en lumière et en puissance ton aura.
J'ai fait un cours de hot yoga et on
et bah, tu fais ça, ligne de cœur et ça. Et tout est. Et ça vient d'où le yoga Kundalini? Ça vient de l'Himalaya, l'Inde et tout ça.
Truc,
ils sont allés récupérer tous les tools, tous les outils qui permettent de dupliquer, de multiplier l'énergie pour que son message et ça crée cette déflagration énergétique. C'est tellement intéressant et puissant. Et c'est pour ça que, quand par exemple j'ai développé mon workshop sur la manifestation, j'avais fait un live où je disais que tout ce que je partage là-dedans, c'est connu et reconnu dans les boys clubs, dans les confréries, dans les sociétés secrètes. C'est des tools qui sont là depuis... que les hommes se partagent entre eux, les hommes de pouvoir, qui ont envie d'être greedy, égotiques, de développer leur succès, leur richesse personnelle et tout ça. Ils connaissent toutes ces tools-là, en fait.
C'est
l'idée, c'est juste de les faire descendre dans la matière, les offrir aux gens pour qu'ils puissent les utiliser pour une autre énergie, en fait. Parce que c'est comme tout. Tu peux avoir un savoir et tu l'utilises pour ta gueule ou pour le collectif, pour créer un monde meilleur ou pour baiser le monde, quoi.
C'est comme quand je parle, j'ai fait quelques vidéos où je parle du vaudou parce que je pratique un peu. Et même ce que je sais, même parfois il y a des choses que le vaudou, c'est quand même une science. Il y a beaucoup de choses, tu peux t'éduquer sur le sujet, mais il y a certaines choses, tu peux pas savoir le faire. Il y a des gens, on va dire, souvent on dit t'es appelé,
bah oui.
Il y a certains trucs où ça va être de père en fils, tu as beau regarder, essayer de refaire, essayer de comprendre, tu peux pas l'apprendre dans des livres. Il y a des gens qui sont appelés à ça. Donc, il y a certaines choses que je pratique, mais il y a des choses que je sais que je laisse à... Toi, tu sais le faire, fais-le pour moi. Mais quand je parle de ça, c'est un truc qui a été tellement démonisé parce que ça a beaucoup de puissance et beaucoup de... Quand je parle de ça, on va dire la personne ignorante sur le sujet, ah, mais c'est mal, mes trucs, c'est pas pour jeter des sorts, c'est la poupée de
poulet. Ou alors ça fait peur.
Voilà, ça fait peur. Et non, mais c'est pas... Ou la question qu'on me pose, mais c'est quelque chose de mal, non? Je leur dis, il n'y a rien en soi qui est mal. C'est ce que tu... Il n'y a pas d'outil. C'est ce que tu fais de l'outil qui est mal. Moi, je leur dis,
c'est ton intention.
C'est un outil qui est très puissant. Ouais. Après, malheureusement, des choses très puissantes, beaucoup de gens les prennent, les gardent pour eux et en font du, entre guillemets, mal ou gardent le profit pour eux. Mais tu peux aussi utiliser pour faire beaucoup de bien.
Bien sûr.
Et je donne toujours l'exemple de la poudre. La poudre.
La
poudre
cocaïne.
À canon. Non. Non. Mais ça, on peut en débattre. La poudre à canon.
Oui.
Je me dis, la poudre à canon, elle a été inventée où? En Chine. Qu'est-ce que les Chinois ils faisaient avec ça à la base? Ils faisaient des feux d'artifice.
Ah ouais.
Ils faisaient des feux d'artifice.
Et l'homme blanc, on a fait des bombes.
L'homme blanc, on a fait des guns, des armes, etc. Donc, il a fait quelque chose de mauvais, des armes, mais ce n'est pas la poudre qui est mauvaise. C'est ce que tu décides d'en faire. C'est toujours j'aime bien cet exemple de la poudre à canon.
Mais c'est comme le couteau. Le couteau, je peux te faire une super bonne tartine de Saint-Boré ou je peux te planter.
C'est ça, bah c'est la vérité en fait. Donc,
ça fait 1h20 qu'on parle, c'est un truc de ouf.
Et je pourrais parler pendant 3 heures.
Et à chaque fois qu'on parle, ça régale. Franchement, je savais pas qu'on allait parler MKUltra, Kanye West, complotisme. En fait, j'adore.
C'est des sujets que j'aime trop, mais le seul problème c'est que, meuf, si je commence à parler de ça sur TikTok, mon compte va pas faire une semaine. On va le supprimer. Tu vois ce que je veux dire?
Heureusement, c'est pour ça que le podcast est là.
Mais moi, ça me fait.
Spotify, Deezer.
Je vois des trucs, j'ai envie de dormir. Mais franchement, les gars, vous n'avez pas compris. Kanye West, c'est ça.
Apple Podcast en PLS sur mon podcast. Donc, mais c'est cool, j'aime bien, c'est ça. Explorons les limites de notre liberté.
C'est ça en fait, mais au final, là où c'est cool, là, enfin, je sais pas exactement où les diffuser le podcast.
Surtout. Sur toutes les plateformes.
Moi, quand je vois que c'est bon, Joe Rogan,
il a poussé les murs.
Ouais. Voilà. En fait, en général, c'est libre. C'est vraiment les réseaux sociaux. C'est Insta, TikTok, Facebook
qui sont là. T'as grave raison.
Au max. Ouais. Mais Spotify, etc. En général, ça va. Donc.
Carlson, c'était un kiff absolu.
Le kiff était partagé.
Grave.
Il est partagé. Mais tu vois le smile que j'ai.
Franchement, c'est gavé. Putain, ouais. Ça fait trop du bien de parler de tous ces sujets. Carlson, vous pouvez le retrouver sur YouTube. Il y a son clip Nefertiti qui est génial. Il y a aussi Moonlight, ses 4 titres, La Nuit, L'Univers, Nefertiti et Glow Up, disponibles sur toutes les plateformes d'écoute. Allez streamer en force. Vous pouvez le suivre sur Instagram, TikTok. Est-ce que tu peux nous donner tes deux comptes?
C'est Homeboy Carlson. @homeboycarlson. H-O-M-E-B-O-Y Carlson. C-A-R-L-S-O-N.
De toute façon, je mettrai tout en barre d'infos. Mmh. Et tes bijoux aussi.
Mes bijoux, c'est la marque Shaman Life. Et le site, c'est shaman-life.com. Mais en vrai, si vous allez sur mes réseaux sociaux, vous allez vite voir ça dans la description. C'est des bijoux énergétiques avec des symboles spirituels. Et de la géométrie sacrée. Voilà.
Merci Carlson pour ce moment.
Merci à toi Amel, c'était génial.
Ciao. Spiritualista. Tu m'as dit quoi Carlson?
Je me sens compris là, j'ai un grand sourire. Je parlais de ma frustration d'être incompris.
Ah ben ça
là j'ai été compris pendant 1h20.
Oh,
trop bien.
Ça c'est trop cool.
Voilà.
Je manifeste les blessings, tous les jours la money me fait signe. Roi de la jungle comme Mufasa, vient une pute, elle aime les fesses. Et on me dit fais pas ci, pas ça, mais j'écoute que le fond de mes pensées. La galère je suis passé, par là j'ai fini par tout baiser. Bisous, tout ce que j'ai je le mérite à fond. À force de hustle et de méditation, je leur mets des pilules et de la médication. Viens niquer des mères sans hésitation. On a du vécu, passé douloureux, soleil brille toujours. Après jour brumeux, je me reposerai quand je serai plus vieux. Parapluie de billets pour les jours plus vieux. Je compte les blessings.
Voilà, c'est tout pour ce 57e épisode de Spiritualista. J'espère que tu as kiffé. Si tu as envie de retrouver mon actualité, mes workshops, mes formations, rendez-vous sur mon site spiritualista.fr. Sinon, tu peux me retrouver sur TikTok et sur Instagram, Spiritualista Podcast. Je t'embrasse bien fort et je te dis à dans 2 semaines pour un solo time.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.